La créativité fait partie des actions, des choses à mettre en place si tu veux remonter la pente suite à un burn-out ou si tu veux éviter le burn-out. L'art-thérapie a fait ses preuves, ça ne date pas d'hier. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement des arts du fil, cette balle anti-stress. Et pour ça, j'ai fait appel à Caro Tricotte, Caroline, qui est une touche-à-tout. Tant qu'il y a un fil, eh ben, Caro n'est pas très loin. Et elle va nous expliquer déjà comment elle a mis les pieds dedans, qu'est-ce que ça lui apporte, comment elle s'organise. Et surtout, elle va te recommander, en fonction de ton épuisement, quelle est l'activité créative la plus adaptée. Coucou et bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à recharger tes batteries pour être épanouie. Que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera échec, désespoir, suicide, harcèlement, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu veux aller plus loin et faire le point sur ta situation, vraiment voir comment tu peux retrouver ton peps, comment tu peux être aligné au quotidien, comment tu peux avoir un quotidien qui te correspond et qui te convient, et surtout, pourquoi pas, trouver une voie professionnelle, je te recommande de réserver ta séance diagnostique. On prendra le temps d'échanger, on fera connaissance, et puis moi, ça me permettra de savoir si je peux t'aider. Si c'est le cas, je te propose mes solutions, sinon on verra ce qui est le plus adapté pour toi. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Bonjour Caro Tricotte. Comment tu vas?
Ça va très bien, ça va très très bien.
Aujourd'hui, je te reçois dans le podcast Le Café des Burnies pour parler des arts du fil, c'est-à-dire le tricot, la couture, la broderie et le crochet. Mais tout d'abord, dis-nous, comment t'as atterri sur Internet, toi?
Alors, j'ai atterri sur Internet, on va dire, par une série d'accidents, puisque au début, Instagram, je l'avais installé sur mon téléphone uniquement pour partager des photos de mon fils aîné qui venait de naître avec les papy-mamies, parce que tous les papy-mamies n'avaient pas forcément le dernier iPhone qui reçoit des photos en e-message. Et en fait, j'ai découvert un petit peu plus l'application, j'ai découvert qu'il y avait d'autres nanas. Et j'ai découvert qu'avec les hashtags, par exemple, si je tapais tricot, je tombais sur d'autres filles qui faisaient du tricot. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait engager des conversations. En même temps, j'avais créé mon blog et c'est pareil, en fait, ça, les deux se sont comme une rivière, quoi. Les deux ont suivi leur cours jusqu'à aujourd'hui. Et le blog, je l'ai créé à une époque où j'avais besoin de tutos. En fait, je cherchais des tutos de tricot, ça me plaisait pas toujours, parce que je me suis lancée dans le tricot en 2010 et franchement, c'était galère en 2010 pour trouver des trucs tout seul et bien. Et un jour, j'ai dit à une copine, ah mais je galère, je trouve pas sur les blogs. Et elle me dit, mais pourquoi c'est pas toi qui le crée? Et j'ai dit, en fait, c'est vrai, j'avais jamais pensé. Je m'étais même jamais donné l'autorisation de créer un truc, mais même une écharpe, tu vois. Genre monter 10 mailles, etc., le truc basique. Et je me suis dit, oui, c'est vrai. Et voilà comment c'est arrivé et comment j'ai partagé des tutos pendant des années.
Tu as commencé directement par le tricot?
La première chose, c'était le tricot. J'avais jamais fait de tricot. En 2010, je me marie. Je veux un schéma, quoi. Je me marie, je me dis, on va faire un bébé.
Oh, t'es trop classique! Non, mais je veux dire...
Tu vois, le truc... j'avais un péché, c'est que je fumais. Et que j'étais addict. Et que pour moi, c'était pas concevable de fumer et d'être enceinte. Donc, il fallait que j'arrête de fumer. Et tout le monde au travail me disait « Toi, Caro, non mais arrête, tu n'y arriveras jamais. » Enfin, genre, c'était… Et à l'époque, je lisais, j'avais un blog de livres. Et c'est vrai que toutes mes activités me permettaient de fumer. Parce que quand je lisais, j'avais une main libre. Quand je bloguais, tu vois, je me la glissais là.
T'as pas des photos dossiers comme ça, franchement? Obligé, tu dois en avoir une en noir et blanc.
D'avant la guerre, non mais. Et tu vois, Simone de Beauvoir, quoi, non mais. Je vais prendre ton turban là.
Avec ma petite cigarette. Ouais, voilà. Taper sur l'ordi. Elle écrivait, hein. Il n'y avait pas d'ordi, je crois.
Et donc, un peu ça, tu vois, Simone de Beauvoir des temps 2010.
Moderne.
Un vieux blog, Canal Blog, tu sais. Et puis, tu dis, en fait, si je veux vraiment, mais vraiment arrêter, il faut que je fasse un truc qui m'occupe les deux mains. Donc, le tricot, j'avais jamais tricoté. Je suis allée dans une boutique fil d'art, tu sais, dans cet ancien temps où tu avais des boutiques fil d'art. Et j'ai vu la dame et j'ai dit, voilà, je veux tricoter, mais je n'y connais rien. Et la dame, elle m'a vendu deux aiguilles taille 10.
Wow.
Tu vois,
ouais, ça, c'est des trucs de Buffy contre les vampires, là. C'est des pieux, là. C'est plus des aiguilles, n'importe quoi. Taille 10,
wow. Elles étaient belles, elles étaient en plastique transparent avec une petite bulle. Je suis rentrée avec une furieuse envie de fumer. Tu vois, j'ai lancé Internet, monté des mailles et tout. J'étais très...
Attends, entre guillemets. Parce qu'en fait, le tricot, c'est chouette une fois qu'il est lancé en automatique. Mais l'apprentissage, il rend ouf. Alors, pour un fumeur...
Non, mais tu vois, mon mari, un soir, il m'a regardé. Il m'a dit, si c'est comme ça, reprends la cigarette. Parce que je devenais dingue. Et puis, je comptais, tu vois. Il m'interrompait. Et c'était... Alors, j'étais en manque, j'étais en sevrage.
En plus, brutal. Visiblement, t'as tout arrêté du jour au lendemain.
Ouais, du jour au lendemain. Tu vois, je mettais ma vidéo et je me mettais comme ça. Quand il rentrait, je... Non, mais il faut le dire quand même que se lancer tout seul, c'est dur.
Mais non, c'est de la faute.
Et en même temps, ça m'a rendu ouf et ça m'a... tu sais, un peu à la manière de quelqu'un qui nous résiste. Tu vois, dans les relations, des fois, on dit dans les relations amoureuses, fuis-moi, je te suis, tu sais.
Ah ouais.
Eh bien, je le regardais, je me disais...
Ne lâche pas ta mère jusqu'à ce que je réussisse.
Ah ouais, je vais y arriver, je vais maîtriser ce truc, tu vois. Et après, là où on habitait sur Cambrai, quand j'ai commencé un peu à rouler le tricot, enfin, je pensais, j'avais vu dans une bibliothèque... dans la ville à côté, il y avait un club de mamie où elle se réunissait le mercredi après-midi à la bibliothèque. Et j'ai tapé à la porte. Et alors là, elles m'ont adoré, hein, direct. Hein.
J'ai ramené de la vie, de la jeunesse.
J'avais 29 ans.
Bah ouais.
Complètement. Alors elle faisait des trucs de dingue, mais hyper complexes. Tu sais, elle faisait des pulls en 2,5, tu vois. Et moi, j'étais avec mes pieux fils d'art en plastique 10, tu sais. Et c'est là, en fait, j'avais vu dans un magazine fil d'art des fleurs en crochet. Mais moi, je ne savais même pas ce que c'était un crochet. Et je leur ai dit, je veux faire ça. Montrez-moi.
À la base, c'était ça. Tricot, couture, filage, broderie, cuisine. C'était beaucoup de transmission orale. Puis un jour, la société avait besoin des femmes dans les usines. Et ça, je sais pas si ça a détruit, est-ce qu'on pourrait dire que ça a détruit, mais n'empêche que le fait d'être dans des entreprises, elles ont lâché tout ce qui est créativité, tout ce qui est
la créativité
manuelle.
Ça nous ramenait à la maison. Et la créativité des... Je pense que pendant le tricot, ça a été vu comme effectivement le truc un peu les femmes à la maison qui s'ennuient, qui font des... Moi, ma mère, elle n'a pas compris quand je me suis mise à tricoter. Parce que pour ma mère, tu vois, c'était cette génération des femmes des années 50 qui ont bossé, qui ont fait des études, etc. Et que d'un coup, je revienne à ça. Alors qu'en fait, elles ont brûlé leurs soutifs et leurs tricots, quoi. Elles sont allées avec les hommes, bosser, etc. Puis moi, d'un coup, j'ai eu ce désir-là de faire de la layette, tu vois.
Oui. J'ai commencé à tricoter quand je suis tombée enceinte du premier, parce que je voulais lui faire de la layette, justement. Je ne sais pas pourquoi, j'avais trop envie de lui faire juste des bonnets, des chaussons, rien de très compliqué. Et finalement, j'ai tellement kiffé ce truc que je me suis lancée dans des torsades, de la dentelle et tout ça. Mais bon, à moi, c'était en 2018, donc tu avais tout ce que tu voulais sur Internet. Des tutos sur YouTube, il n'y a que ça. Fallait juste être attentive à un chouïa et t'arrivais à faire des trucs de fou. Et quand j'avais envoyé les photos à ma mère, tout, regarde ce que j'ai fait, nanana, donc elle le montre à ses collègues qui sont de ma génération, et tout le monde était, mais genre choqué. Mais pourquoi elle tricote? Tu vas dans un magasin, tu as tellement de choix et de modèles. Mmh. Mais pourquoi est-ce qu'elle tricote ? Et vraiment, c'était vu comme un retour en arrière.
Ah, bah, c'est,
comme si, je ne sais pas, je crachais sur l'émancipation de la femme ou je ne sais quoi.
Mais parce que tu sais, pendant un temps, on apprenait ça aux petites filles à l'école, mais juste aux filles.
Ouais, c'est peut-être.
Et alors, peut-être c'était vraiment les filles, elles avaient travaux pratiques, travaux manuels. Ce serait génial s'il y avait des cours, mais mixtes, tu vois,
ouais,
sur les
tout le monde.
Travaux d'aiguille.
Ouais.
Mais c'est vrai que peut-être qu'elles l'ont vu comme ah bah, à partir du moment où on a supprimé ça et on a fait un programme commun, garçon, fille, etc., ah bah, on s'est libéré de ce truc qui nous ramenait à la maison, de femme au foyer. Et donc, ça a été un peu vu comme quelque chose dont il fallait se libérer pendant un moment.
Ouais.
Donc moi, j'ai pas eu cette transmission. Bah, toi, pareil, tu vois, on n'a pas eu cette transmission.
Et pourtant, moi, j'ai porté des pulls tricotés. Hein. Ma grand-mère, elle filait la laine.
Ouais.
Ma mère, elle l'a tricotée. J'en ai porté jusqu'à 10-11 ans, je crois. Mais jamais de la vie, elle m'a transmis la pratique. Parce que pareil, dans sa tête, vas-y, non, il faut étudier. Il faut avoir des diplômes. Il faut être indépendante financièrement. Mais en fait, ce n'est pas incompatible. Sauf que, encore une fois, c'est la société, hein. Parce que je veux dire, ce n'est pas la femme qui va dire oui, le tricot, c'est femme au foyer. C'est la société qui a dit que la femme qui travaille, qui est cadre, qui se lève le matin et tout ça, c'est une bonne femme, entre guillemets. Et celle qui est à la maison, tu vois, elle est précaire ou elle ne sert à rien ou parce qu'elle n'a pas fait d'études. Vraiment, c'est la société qui a donné cette image, qui a séparé les deux. Mais en réalité, tu peux très bien être cadre sup dans une grande entreprise, une firme internationale, et quand tu rentres chez toi, tu tricotes.
Complètement, mais par contre c'est pas encore vu comme quelque chose de normal, comme lire un bouquin ou même limite fumer sa clope, hein, tu vois.
Ouais.
Boire son verre. En fait, quand tu rentres du boulot, et ben tu peux trouver ton plaisir en fumant ta clope, en buvant ton petit whisky, mais en prenant ton tricot aussi.
Bah,
et
ouais.
Ça, c'est encore très, enfin c'est pas intégré.
Ouais, faut déconstruire, hein, cherche pas.
On était sur une plage il y a 2 ou 3 ans et je tricotais, tu vois, sur la plage. J'étais la seule à le faire, mais bon, j'étais tranquillou dans mon petit fauteuil en train de tricoter, les enfants y jouaient. Et ben, il y a 2 mecs qui passent, alors 28 ans, et puis tout haut, il dit ouais, tu veux un pull, tu sais, puis il rigole quoi. Déjà, de
où. Pas claque. Moi, j'aurais pris ton pieu là, de 10 là.
Non, mais de où. Non, mais c'était pas mon pied de 10.
Ouais.
Chacun son loisir. Et le tricot, le crochet, la broderie, c'est encore un loisir avec un petit bagage de ringardise ou de femme. Parce qu'il y a des mecs qui tricotent et de plus en plus. Hein,
Il y a des grands designers tricot.
Ouais.
Et quand tu vas dans les pays du Nord, style, je ne sais pas moi, Suède, Finlande, vraiment les pays très froids là. Ben les mecs, ils tricotent dans les cafés. Enfin, t'as l'impression que chez eux, pour le coup, le tricot, c'est pour tout le monde et dès le plus jeune âge. Et tout le monde tricote et c'est comme fumer, boire. C'est une habitude très courante que tout le monde fait. En fait, encore une fois, c'est la société va donner une place à chaque chose. Mais en réalité, toi, individu, c'est ta responsabilité de donner de la place à ce que tu veux donner.
Oui, et donner du sens. Si toi ça te fait plaisir, si moi ça me fait plaisir de faire quelques mailles sur la plage et que lui il va faire quelques passes de ballon, c'est la même chose, chacun tire son plaisir, c'est un plaisir honnête, hein. Je suis pas en train de me piquer, enfin tu vois, c'est
bah ouais, licite.
Voilà.
Tu dire c'est un hobby licite et autorisé par l'État.
Ah oui,
et sans effet indésirable en plus. Après je pense que c'est parce qu'on est baigné dedans, mais moi je trouve que le tricot, il a pris vraiment une ampleur stylée, entre guillemets. C'est devenu genre tendance, tu vois, les kits. Il y a même Karl Lagerfeld qui a fait un kit. Tu dis, ben.
Mais j'ai vu que Zara, ils sortaient des kits avec We Are Knitters, tu vois.
Zara. Ben voilà.
C'est-à-dire qu'en gros, tu vas aller chez Zara, tu vas pouvoir acheter ton kit de tricot. Donc, oui, il y a eu un.
C'est-à-dire que le truc, il est là. Le machin a changé de. Le tricot a changé de forme, il a changé de place.
Parce qu'on le sait.
Parce qu'on le sait.
Pour Madame Michu, qui
ne
va pas forcément à Zara et qui, tu vois, elle le sait.
Qui n'est pas sur Instagram, qui ne suit pas des comptes de tricot et tout ça, elle croit que c'est encore pour mamie, qui s'ennuie à la maison. Et encore une fois, il faut en fait se détacher un peu de ce que dit Madame Michu.
Mais et aussi, tu sais, en parlant de ça, c'est. Le tricot est toujours associé à la représentation de la mamie. C'est-à-dire que quand tu veux dessiner une mamie quand tu veux montrer une mamie dans une pub, et ben généralement, elle tricote.
Mais ça, on le sait. Franchement, aujourd'hui, ça va quoi. On le sait. Oui. Et même si la télé, ça reste toujours toxique, hein, je ne le dirai jamais assez, les publicités et tout ça, c'est des messages comme ça, subliminaux, qui viennent ancrer des croyances dans ta tête. Il faut s'en détacher, ça, c'est clair.
Et puis, eux, les publicitaires, ils sont en retard de 30 ans. Hein.
Oh, tu sais, ils ne sont pas si en retard que ça.
Hein. Mais quand ils te mettent une nana nue pour
te... Ouais, c'est parce que ça vend quand même. Franchement, moi, je pense qu'ils font des études très poussées pour savoir qu'est-ce qu'ils vend le plus.
Donc, mais s'ils mettent encore... Mais ils savent que quand on est une femme nue, tu vois, c'est le truc le plus simple et le plus...
Et la mamie qui tricote, j'imagine, c'est nostalgique, je ne sais pas, c'est chaleureux, nanana. Là, pour le coup, je pense vraiment qu'ils savent ce qu'ils font.
Mais
c'est
à nous. On verra une working girl,
Vois.
Une consultante en machin, truc, etc., qui rentre et qui tricote, là, je serais trop contente.
Non. Jamais.
C'est pour ça qu'on craque toutes. Hein,
bah oui.
Parce qu'on n'est jamais bien dans notre modèle. Ouais. Comme j'avais lu sur Instagram, il faut bosser comme si on n'avait pas d'enfants et élever ses enfants comme si on n'avait pas de boulot.
Voilà.
Comment? Et on n'aime pas ça aux hommes.
Ah non, non. C'est pour ça que... Les gens, ils me disent « Pourquoi tu choisis que des femmes ?» Combien de fois hein? Ouais, pourquoi tu n'accompagnes pas les hommes ? Mais moi, non, c'est pas pareil. L'épuisement de la femme aujourd'hui, c'est pas juste un épuisement lié à la surcharge de boulot. Non, 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 il est lié à la société dans laquelle on évolue.
Et c'est-à-dire l'image qu'on a de soi.
Ouais, l'image qu'on a de soi,
ça je culpabilise souvent de me dire « Je suis une mauvaise mère parce que... » Parce que j'ai raté un truc, parce que j'ai trop bossé sur un... Tu vois, je suis sûre que mon mari, et pourtant c'est un bon père, tu vois, mais il n'est pas là au moment de se coucher en train de se dire « Ah, aujourd'hui j'ai été un mauvais père, j'ai trop crié » ou alors « Je les ai mis devant un dessin animé parce que j'ai voulu avancer un dossier, tu vois. »
Non.
Nous, on est tout le temps en train de se regarder faire et de se juger, c'est insupportable.
Mais parce qu'on nous... on nous met des responsabilités, enfin je veux dire, on nous met la pression au boulot. On va te mettre la pression parce que tu es une femme. Donc, tu as des congés maternité, tu as des jours enfant malade, ça veut dire que tu es moins productive que les autres. Du coup, pour en plus, sans parler du cycle menstruel, hein, on n'en parle même pas de ça. Donc déjà, à l'entreprise, on te met la pression pour que tu sois à la hauteur des mecs qui, eux, n'ont pas de gamins, n'ont rien.
Mais on ne va pas te payer pareil.
Ah oui, on ne va pas te payer pareil parce que tu comprends, toi, tu pars en congé mater et tu as plus d'arrêt à cause de tes gamins et tout ça. Ouais. Et quand tu rentres à la maison, c'est toujours toi qui dois t'occuper de la maison, des enfants, des tâches administratives. Et le gars, lui, il croit qu'il a travaillé toute la journée. Tu comprends, donc quand il rentre, il doit s'asseoir. Alors, je caricature, hein, c'est sûr. Mais il n'empêche que c'est plus ou moins l'idée dans une majorité de foyers. Et du coup, toi, femme, tu dois être sur tous les fronts, tu dois être au top tout le temps et tu ne peux que être épuisée au bout d'un certain moment. Mais parce qu'on te met trop la pression un peu de tous les côtés, sans parler de la femme qui doit être une bonne mère, donc tes enfants, ils doivent être bien éduqués quand tu vas à la famille, quand tu les déposes à l'école. C'est trop de pression pour la nana. Et c'est pour ça que je dis que la femme, son épuisement, il est particulier, parce qu'il est lié à la société qui est misogyne, sexiste, patriarcale, tout ce que tu veux. Et donc, aujourd'hui, faut s'éduquer, en fait. Encore une fois, on est responsable de soi. Il faut s'éduquer, il faut commencer à déconstruire tout ça et s'imposer, s'affirmer pour... Ben, travailler comme il faut à la maison, travailler tout comme il faut au boulot, tu vois, le juste milieu, quoi. Je fais mon taf et c'est tout.
Oui.
Et je culpabilise pas, par exemple. Moi, encore un exemple pour le mari, qui est un très bon mari, sincèrement. Hein. Le mari, il fait sa part de boulot, il s'occupe des enfants, tout ça, tout ça. Il n'empêche que, comme tu disais, il se prend pas la tête, lui. S'il a une soirée, ben, il va me dire, tel jour, j'ai une soirée. Alors que moi, ouais, mais tu vois, il ne va pas pouvoir faire dormir les enfants. Imagine, elle se réveille. Comment il va faire pour l'allaitement, nanana. Ben non, en fait.
Et moi, c'est exactement pareil que toi. Un soir, tu vois, je reçois un message de mon mari à 19h. Il me dit, ne m'attends pas pour manger, je vais être en retard. Et moi, je lui ai répondu, mais je rêverais un jour de t'envoyer un message comme ça. Mais ce n'est pas possible. Parce que ça voudrait dire qu'ils seraient où, les enfants ?
Ouais.
Et tu vois, ne m'attends pas pour manger, je vais être en retard. Parce qu'on a construit tout le modèle sur ça. Et
voilà.
Moi, par contre, je suis méga labour dans mon boulot.
Voilà. Non, mais en fait, c'est ça. Et quand on prend conscience, bah, c'est tout. Limite, tu le notes quelque part et ce sera pour la prochaine fois. Pareil, je sais pas, moi, genre, j'ai des trucs à faire à l'extérieur. Jamais je vais me permettre de rentrer à une heure tardive, genre par rapport au coucher des enfants ou même par rapport au le souper.
Lui, s'il sort, non. Il sort, le mec, il oublie qu'il est parent. Et du coup, je me dis, bah, la prochaine fois, moi, quand je sors, j'oublie que je suis parent. C'est tout, je me les note. Je prends, tu sais, comment on dit déjà ? Ah, je prends exemple ouais. sur lui. Ok, bah, la prochaine fois, moi aussi, je vais sortir, je vais oublier que je suis parent. Et c'est comme ça, peut-être qu'on va réussir à équilibrer un petit peu.
C'est parce qu'ils savent qu'on est là, parce qu'il y a une soupape. Tu vois, j'ai vu un super reportage, c'était sur France 3 il y a un an à peu près, sur l'histoire des femmes au XXe siècle et cette conquête-là. Le boulot, on est sur tous les fronts. Et il y avait une nana, une féministe, qui était invitée à l'émission de Bernard Pivot. Et il dit, mais qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui à une nana, tu vois, qui était chef d'entreprise, maman de 3 enfants, etc. Et en rigolant, elle lui dit, une femme. Ouais. Tu sais, celle qui est à la maison là.
Non, mais c'est pour ça que je dis, il faut vraiment poser ses limites et dire non. Et ça veut pas dire que tu le fais une fois et puis on n'en parle plus. C'est tout le temps en fait, t'évolues tout le temps. Donc moi j'ai commencé par dire non sur certaines choses, donc ça va beaucoup mieux qu'avant, tu vois. C'est-à-dire que avant, mais on démarre de loin, on vient vraiment de très loin. Donc j'ai posé des limites, j'ai dit non, mais il y a toujours un déséquilibre, et toujours un petit décalage. Ben, c'est tout, je continue à poser des limites et à dire non jusqu'à ce qu'on arrive à un certain équilibre.
Je crois aussi qu'on est actrice de ce déséquilibre aussi, d'une certaine manière, parce que avec une culpabilité. C'est-à-dire que même si on lâche prise, même si des fois il me dit bon allez, bah mets-les à la garderie, et puis tu vois, mais au fond, je me dis oh là là, ils ont leur petit goûter, il pleut, machin, truc, et tu vois, voilà.
Non, mais après il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire je vais pas chercher un équilibre au détriment de mes valeurs. Non, je vais quand même. Exemple, je fais école à la maison, je garde la petite. Il y a des trucs qui sont super importants, je vais quand même les faire. Mais ceux-là, je les fais avec amour, enfin tranquillou. Donc ça, c'est important. Je ne vais pas chercher un équilibre en fonction de Madame Michou. Je vais chercher un équilibre en fonction de moi, de ce qui est important pour moi. Donc même si certaines personnes, elles trouvent bizarre que je fasse école à la maison, que je garde la petite, bah non, si tu veux vraiment partage des tâches ou je ne sais plus quoi. Si tu veux vraiment ça, bah alors soit lui aussi doit rester à la maison, soit tu dois les mettre à la garderie. Bah non, moi ça me convient de les garder, de faire école, ça me convient. Donc je le fais. Mais par contre, il y a d'autres choses où oui, je vais toujours chercher un équilibre, un partage des tâches. L'équilibre, c'est vraiment propre à chacun et c'est à vie. Il faut toujours être conscient de ses actions, de ses choix, de ses priorités. Faut sortir le plus possible des schémas automatiques, faut être conscient. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Et je priorise. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Par quoi je commence ? Combien de temps ? Et qu'est-ce que je dois déléguer ? Qu'est-ce que je dois supprimer ? Ça, c'est un travail à vie. Il n'y a rien à chipoter là-dessus. Et du coup, toi, tu as vraiment réussi à arrêter de fumer uniquement avec le tricot ?
Ah oui. Mais des fois, mon mari me dit, tu as remplacé une addiction par une autre. Et c'est vrai que, tu vois, dès que j'ai rien à faire, tu vois, là, en début de podcast, je t'ai dit, bah là, j'ai ma broderie avec moi, tu vois. Non pas que j'ai rien à faire, mais il me dit, tu as remplacé ton occupation des mains. Je sais que, parce qu'en fait, fumer, il y a aussi beaucoup le geste. Il y a un effet sur... J'ai beaucoup réfléchi après à ça. Quand tu fumes, tu ne penses pas. Il y a un effet sur la respiration, parce qu'en fait, quand tu fumes, tu expires consciemment, parce que tu vois ton expiration. Ça, quand j'étais fumeuse, je n'y pensais pas. Donc il y a ça, et il y a le geste aussi qui permet de donner une contenance, parce que des fois on ne sait pas trop quoi faire de ses mains, enfin on est et donc là moi tu vois j'ai ma broderie là parce qu'elle me rassure, comme ça aurait été il y a 20 ans, je vis mon paquet de cigarettes et mon cendrier. C'est devenu une addiction, c'est quelque chose qui va m'occuper les mains pour pas penser. Tu vois, je pense aussi que les femmes pendant des siècles elles ont fait des travaux d'aiguille pour ne pas penser. Parce que la condition de la femme, c'était aussi beaucoup... Quand tu voulais avoir un enfant, déjà, tu avais peut-être une chance sur 4 de mourir en accouchant. Tu avais une chance sur 2. De toute façon, un enfant sur 2 ne dépassait pas 2 ans. Un enfant sur 2, hein, avant 1850. Donc, c'est ce truc de cette angoisse permanente. Elles se réunissaient, etc. Donc, je pense vraiment que ça a été la balle anti-stress. Aujourd'hui, nos gamins...
Oh non, ça a été une thérapie.
C'est vraiment ça.
Non, ça a été une thérapie et même plus proche que ça. Hein. Même la génération, alors peut-être pas celle d'avant, mais tu vois, je pense à ma mère. Pareil, ma mère, elle n'a pas eu la vie facile et c'est quelqu'un qui a beaucoup tricoté et beaucoup écrit. Elle écrivait beaucoup aussi. Et je reste persuadée que ces deux thérapies-là, parce que les deux, c'est des thérapies, la graphothérapie et la trichothérapie, c'est des choses qui existent. D'ailleurs, elles t'ont permis, toi, d'arrêter de fumer. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans les bienfaits du tricot, mais les gens, ils disent « Oh, c'est pas vrai ». Mais si, si, on peut arrêter de fumer, on peut arrêter les addictions, en fait, avec le tricot. Et donc, j'ai... récemment, quand j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit, ça fait partie des choses qui ont permis à ma maman de tenir le coup, de continuer à nous aimer, à faire son taf de maman, alors qu'elle avait la vie très, très dure. Mais voilà, elle écrivait beaucoup, elle tricotait beaucoup, elle cuisinait beaucoup. Tu vois, c'est que des activités créatives au final.
Parce que le cerveau, il se met sur une autre...
Une onde alpha,
voilà,
en fait.
Voilà, exactement, chercher le mot. Ouais. Et voilà, on est au-dessus.
Une onde flow, on va dire que c'est un état de flow. T'es pas dans la somnolence, mais t'es pas dans l'éveil non plus. T'es entre deux, et c'est une onde relaxante. C'est une onde qui te permet, pour le coup, de cogiter, de chercher des solutions, et pour celles qui souhaitent de s'apaiser.
Mais pas de ruminer. Ouais. Tu rumines pas quand tu tricotes, parce que tu te mets sur le brodé ou crocheté, hein, mais t'es sur... Et puis tu crées quelque chose. Moi, j'avais dit à une collègue prof, elle était prof de français, et elle m'avait dit « Oui, mais nous, les profs, on ne crée rien matériellement. » Et je lui disais « Tu vois, ma satisfaction, c'est d'avoir entre les mains un truc qui va se transformer en un objet. Mais quand tu glisses un doudou que tu as crocheté dans le berceau de ton bébé, waouh, tu vois, tu as fait le bébé.
» Et puis, il va traverser des années, peut-être qu'il va traverser des générations, peut-être que 20 piges après, tu vas dire « Eh, c'est le doudou de mamie !» Même si le savoir, encore une fois, il n'y a pas plus... périn entre guillemets, mais tu le touches pas, je comprends. Le doudou, il est plus palpable, et quand c'est plus palpable, ça fait toujours mieux, quoi. C'est pour l'estime de soi, en tout cas, c'est plus efficace.
On le voit.
Voilà,
tu vois, quelqu'un qui se lance dans le crochet, qui au début galère, et puis au bout d'un an a une petite étagère qui se remplit de petits doudous et qui fait sa petite photo Insta, et ben quel plaisir. Ouais. Et même si les gens ne comprennent pas, même si tu as le cousin qui vient, qui trouve que c'est moche, tous ces trucs, tu vois. Mais toi, tu le vois. Tu vois, tu as créé ça.
Mais tu vois, ça me fait penser quand tu dis pour la cigarette. Avant de tomber enceinte, moi, je fumais beaucoup la chicha. Vraiment, je fumais beaucoup la chicha. Et bah, pareil, tu tombes enceinte, c'était hors de question de continuer. Il fallait arrêter. Et quand j'ai... Mais moi, je ne l'ai pas fait consciemment, par contre, hein. Il fallait que j'arrête la chicha, voilà, la question ne se posait pas. Et je voulais faire de la layette pour mon petit. Donc, j'ai commencé le tricot au moment où j'arrêtais la chicha. Et j'ai jamais repris la chicha.
Oui, parce que tu as trouvé ton plaisir.
Parce que j'ai, comme il t'a dit ton époux, j'ai remplacé une addiction par une autre. Donc non, mesdames, sincèrement, le tricot peut vraiment aider à délaisser une addiction qui est néfaste. Parce qu'après tout, même si c'est une addiction, le tricot, qu'est-ce que tu veux que... Si ce n'est avoir plein de vêtements pour mes enfants et plein de doudous, il n'y a pas d'effet indésirable.
En plus, on se fait des copines, si on va dans les tricoter. La communauté tricot, c'est quand même une communauté super sympa. Et quel que soit l'âge, hein, moi, quand j'étais allée voir ces petites mamies là, dans la médiathèque, tu voyais, elles rigolaient bien, elles parlaient des voisines, c'était un peu... c'était marrant, les petits ragots des mamies, etc. Mais oui, c'est les femmes avec leur ouvrage et puis leur langue. Mais c'est vraiment...
Ah, ça crée des liens.
Aujourd'hui, toutes mes amies, c'est vraiment... c'est des créatives parce qu'il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu tout ça.
Non, mais en plus, tu sais, quand tu es en épuisement, il y a vraiment une phase de repli sur soi où tu vois personne. Tu vois personne parce que tu culpabilises, tu as honte, tu te sens... En fait, tu es dévalorisée. Du coup, limite, t'oses pas être dans des groupes tellement que tu te sens moins bien que les autres. Et donc, lorsque tu te lances dans le tricot, tu rentres dans un autre environnement qui, lui, ne te connaît pas. Tu vois, c'est pas la famille, c'est pas les collègues, c'est pas les amis de longue date. Ils connaissent pas ton histoire. C'est un peu comme une nouvelle page blanche au final. Tu rentres dans un nouveau réseau. Ça peut être en ligne, ça peut être en physique. Et c'est des nouvelles personnes d'horizons, mais voilà, des profils extrêmement variés. Et toi, t'arrives comme ça. Et personne ne sait que t'es en épuisement. Personne ne connaît tes galères. Et tu viens juste pour chercher du positif. Tu viens juste pour tricoter ensemble, pour discuter, pour connaître d'autres histoires. Et ça va te permettre de recréer des liens que tu n'as
pas. Et en plus, tu ne seras pas jugée. Parce que tu pourrais très bien te dire, bah oui, mais moi, je vais m'inscrire, tu vois, pour pour surmonter ça, je m'inscris dans un club de tennis ou dans un club de gym. Mais là, le club de gym, tu vas arriver peut-être avec des nanas super bien roulées qui te font des trucs ou du yoga, tu vois, mais des positions, machin, truc. Et là, d'un coup, ça te remet dans ta... T'es qu'une merde, tu vois. Et là, quand tu arrives dans un groupe de tricot, t'as personne qui va regarder tes pieux de 10 et puis ta grosse laine en disant « Ah non, mais celle-là, trop nulle !» Il n'y en a aucune qui va dire « Ah, regarde, moi, je fais un pull en 2,5 ». Et au contraire, en fait, c'est vrai, hein. On est toutes là. « Ah ben, viens, monte, t'as quoi comme laine, etc. Regarde-moi ma laine.
» Elle te conseille. « Ah, c'est peut-être pas la bonne, c'est pour ça que tu galères. Essaye plutôt ce type de laine ou ce type d'aiguille, nanana. » Mais non, ça reste des clubs qui sont bienveillants parce que... Je sais pas, c'est peut-être l'activité qui veut ça. Donc, on est vraiment là pour tricoter ensemble, pour discuter. Et il y a un truc avec le tricot, c'est qu'il délie les langues. Quand tu vas faire du sport, non. J'étais tellement concentrée à mourir que t'as pas le temps de discuter.
À côté, elle reste. Tu sais, c'est comme le sketch Leblon, là. Je sais pas.
Ouais.
À côté, elle est fraîche et tout. Mais toi, t'es là, t'es au bout de ta vie. Bah non, ça, c'est vrai. Vaut mieux le tricot aussi.
Le tricot, vraiment, ça me met à l'aise et ça désactive les filtres. Du coup, les gens parlent, discutent.
Et puis, je sais pas, j'ai eu l'envie de revenir à la broderie à un moment où elle ne revenait pas encore. J'avais l'intuition que ça allait finir par revenir parce qu'en fait, en rigolant avec une copine, quand le macramé est revenu, j'ai dit, tu verras, un jour, le point de croix va revenir à la mode. C'est pas... Et en disant cette blague, je me suis rappelée que j'avais à l'étage, enfin dans les combles, une boîte remplie d'échevettes DMC. Mais vraiment, tu vois, j'en avais...
Juste en dit, c'est les fils, c'est les tout petits fils qu'on utilise pour la broderie.
Pour broder, tu vois, je... Mmh. Ouais, c'est... C'est ça. Ah bah regarde, tu vois, j'en ai là. Tu vois ça. Mais j'en avais plein. Mais qu'est-ce que tu voulais faire avec du tricot, du crochet?
Bah ouais,
ça.
Tu peux pas.
Je les ai sortis, puis je me suis dit, tiens, ici, je brodais un petit truc.
Et la couture, c'était quand?
La couture, bah moi, j'ai eu une machine pour mes 30 ans. Tu vois, je vais avoir 40 ans dans 2 mois. Pour mes 30 ans, mon mari, il m'a dit, tu veux quoi comme cadeau? J'avais pas d'idée, tu vois. Je venais d'avoir mon fils, je venais de me marier. Et j'ai dit, écoute, une machine à coudre. Mais j'avais jamais fait de couture.
Oui, mais c'est marrant, tu sais, je constate qu'on a quand même pas mal de points communs parce que moi, ma machine à coudre, je l'ai eue à 30 piges aussi. Quand le premier est né, pareil, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Et je lui ai dit, pourquoi pas une machine à coudre, je pourrais lui coudre des chemises, des machins, toujours autour de ce garçon, hein, c'est fou. Et du coup, j'ai eu cette machine, mais franchement, je ne sais pas si c'est le manque de place ou parce que voilà, il y a deux qui se sont enchaînés et c'est compliqué de coudre avec des gamins de bas âge comme ça. Du coup, je ne l'utilise pas des masses.
Je pense qu'on peut moins défaire facilement. Moi, j'ai toujours peur d'acheter pour 15 euros de tissu et puis en fait de mal couper mes pièces.
Ouais.
Alors que le tricot, tu peux acheter pour 15 euros de laine et puis si c'est nul, tu défais et tu gardes ta laine, tu vois.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais le plus ?
La broderie. Là, je travaille sur un livre.
D'accord.
Puis là, je me suis vraiment professionnalisée autour de la vente de mes cartes de broderie. Donc, c'est vraiment ce qui m'occupe le plus. Et le tricot a gardé son côté loisir, là, lui, par contre.
Et qu'est-ce que tu fais ? Il y a des broderies. Tu vois, quand est-ce que tu tricotes ? Est-ce que tu as une routine tricot ? Comment ça marche ?
Le soir, j'aime bien devant la télé ou en écoutant un bouquin. J'écoute beaucoup des romans audio. Sinon, les trajets en voiture, tout ça, j'aime bien aussi avoir un tricot, un truc. Parce que c'est mon mari qui conduit généralement quand on fait les trajets en voiture. Parce que justement, moi, j'aime bien les longs trajets, tu vois.
Ah, kiff, kiff.
Faut que les enfants dorment aussi, hein.
Mais au moins, ça a quand même des bienfaits. Et toi, ça te fait quoi exactement ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Vraiment.
Ça me fait du bien. Dès que mes mains elles sont occupées sur ce geste-là, c'est vrai que j'ai l'impression que mon cerveau se met différemment. Ça m'adoucit. Je suis quelqu'un de très, très impulsif et très colérique, même si ça ne peut pas forcément se voir. Très exigeante aussi. Et exigeante vis-à-vis de moi. Et là, d'un coup, voilà. Ça... ta part. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est en colère. Hein. Je suis quelqu'un qui a la colère. Je suis comme ça, donc je suis en colère pour plein de trucs, hein, même des trucs qui se passent dans le monde, des trucs qui m'arrivent. Je me mets en colère. Et là, d'un coup, la colère, elle tombe. Hein. Vraiment, mon esprit se branche sur quelque chose. J'avais dit à mon mari, ça lui avait pas plu, tu vois. J'avais été interviewée par sur un podcast, mais mon mari l'avait pas compris comme je voulais le dire. J'avais dit, c'est comme un amant, tu vois. Mais il me dit, ouais, mais tu dis des trucs comme ça, t'es pas content. Je dis, mais non, mais je dis pas. Mais c'est cet autre qui me fait du bien. Mais c'est pas un amant, c'est pas une relation extra que j'aurais avec un voisin. Mais c'est cette autre chose. En fait, c'est mon jardin secret. C'est mon sac à ouvrage. Et quand je me mets dans le canapé le soir, après la journée, et que je sors mes trucs, c'est ça. Mon mari me fait du bien aussi. Hein. C'est pas contre le toit, il n'était pas. Mais c'est cette relation que j'ai avec ces objets-là et cette création-là, c'est mon. Ça me fait du bien. Voilà, j'en ai besoin.
D'ailleurs, tu conseilles quoi entre. Tu sais, broderie, tricot, couture. Broderie, tricot, crochet. Parce qu'on a compris que la couture, c'est la machine, il faut la sortir. Déjà, il faut l'acheter. Hein, elle a un certain coût. Ouais. Et puis, il faut la sortir. Elle fait du bruit. Il y a quand même toute la gestion du tissu.
Tu peux pas le faire quand les enfants ils dorment. Tu vois, quand tu as un bébé, sortir la machine à coudre, à moins d'avoir une grande maison. Mais tu dis, oh là là, tu prends pas le risque de sortir la machine et de réveiller bébé.
Moi, je peux même pas la sortir quand ils sont éveillés. Parce qu'ils vont venir tous tirer sur le fil, taper sur la pédale. Tu vois, elle va mettre comme ça sa main sur la table pour tirer sur les tissus. C'est impossible. Pour coudre, il faut que je sois toute seule. Voilà. Y a pas, hein. Et généralement, quand je suis toute seule, je profite pour faire éditer mes podcasts. Bref, travailler avec les clientes. Donc, j'ai plus trop le temps... d'avoir une activité qui nécessite l'absence des gamins pour l'instant. Quoi. Après, quand ils seront plus grands, peut-être que oui. On a compris que la couture demande quand même plus de gestion et un contexte bien précis. Il nous reste le tricot, le crochet et la broderie que tu peux faire n'importe.
Le plus simple, c'est la broderie. C'est vraiment le plus simple, tu vois. Parce qu'il n'y a pas besoin de connaître des points... C'est un geste, ne serait-ce que le premier point, le point arrière, tu vois, c'est le plus accessible aussi. C'est vraiment, tu t'offres un petit kit avec le dessin pré-imprimé. Le deuxième plus simple, pour moi, c'est le crochet. Alors, les gens, ils ont super peur du crochet, mais le crochet, ça te permet de faire des petits ouvrages. Tu vois, regarde, j'ai fait, une petite citrouille, c'est un pique-aiguille. Ça te prend, quand tu maîtrises, ça te prend 2 heures. Ou une heure. Et le tricot, par contre, c'est un autre niveau. Pour moi, donc, des trois, c'est le plus difficile. C'est marrant parce que c'est celui par lequel j'ai commencé, en fait. Mais le tricot, là, tu vas plus loin. Tu peux vraiment faire de l'habillement. Puisque le crochet, tu peux faire de l'habillement aussi, mais c'est moins
pratique. T'as moins de possibilités.
Oui, le point.
Vas-y crochet, pour porter du crochet, hein.
Oui. En plus, c'est fort à jouer, tout ça. Le tricot, tu vas plus loin, tu fais moins ces petites choses, tu veux pas une petite citrouille, mais tu vas quand même faire de la layette, un petit gilet. Et le tricot, il est pratique. J'avais fait un bonnet d'ange avec tout un dessin, etc., de points, et je voulais l'utiliser pour Hortense, je l'ai jamais retrouvé. Mais le bonheur à la maternité de mettre mon fils dans le nid d'ange que j'avais tricoté. Quoi. C'était là la jouissance ultime. Genre aux gens, je disais, non mais regardez, j'ai accouché de ça.
Mais en fait, non, regarde mon... c'est une chaussette dans maillotage, tu sais, avec le bonnet. Ouais, regarde ma chaussette dans maillotage et le bonnet, c'est trop beau sur elle.
Là, c'est vraiment... Il y en a un, on a sorti de notre ventre et l'autre, on a sorti de nos mains, quoi. Deux ensemble.
C'est l'extase en termes de bien-être et de satisfaction de soi. C'est clair qu'on est au summum. Non, donc c'est broderie, parce que le point, il est facile et que tu n'as pas de patron, si tu ne dois pas compter les... Tu dois pas compter les mailles, tu ne dois pas revoir où est-ce que tu es en termes de gris. Même si, en termes de tricot, on peut quand même avoir des ouvrages très faciles où le patron est très facile, mais la broderie, le point est quand même plus simple. Ensuite, le crochet, parce que tu peux faire des petits ouvrages, donc tu les termines très vite et comme ça, tu es fier de toi rapidement. Et après, le tricot pour aller plus loin dans l'habillement ou même dans l'accessoire.
en même temps, je pense que si on commence par le crochet, tu vois, moi, je suis contente d'avoir commencé par le tricot parce que j'ai des amies créatrices qui disent « Oh là là, mais le tricot, j'adore, mais je peux pas. » Enfin, j'y arrive pas. Mais parce que quand on a commencé par le crochet, comme c'est un système tellement différent et puis qu'il n'y a qu'un seul objet, c'est le crochet, et bien d'un coup, si on arrive au tricot et qu'on a les deux aiguilles, on se dit « Bah oui, mais alors je fais comment ?» Tu vois ? Et alors qu'en fait, quand tu commences par le tricot, c'est plus facile d'arriver au crochet parce que... on t'enlève une aiguille, quoi. Tu vois, et t'as déjà les mots maille, montage, tout ça, t'as déjà, c'est dans ton référentiel, quoi, de connaissances.
En gros, c'est plus facile de faire tricot-crochet que crochet-tricot.
C'est des fois même carrément foutu, en fait, si tu fais crochet-tricot, tu vois. Mais vraiment, hein, j'ai des copines créatives et créatrices qui sont paralysées par ça.
Parce qu'il y a un outil en plus. Donc, broderie, du coup, vaut mieux broderie, tricot, crochet. Pour ne pas être handicapé par la suite.
Voilà.
Et si tu devais les recommander, là, toutes ces activités créatives, c'est de l'art, hein, ça reste de l'art. Si tu devais les recommander à quelqu'un de fatigué, d'épuisé et qui n'a pas vraiment très envie. Vraiment, parce que quand t'es épuisé, on n'a pas beaucoup de sérotonine, donc vraiment, on n'a pas de plaisir à faire les choses. On a juste envie de dormir et de cogiter. Voilà, c'est tout. Donc, quelqu'un qui est en burn-in ou en burn-out, donc l'envie, elle n'est pas là. L'énergie, elle n'est pas là non plus. Et généralement, le temps n'est pas là non plus. Quelqu'un d'épuisé, mais qui doit quand même se lancer dans la créativité pour commencer à prendre soin de lui. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire ?
Je lui dirais de se faire plaisir dans le choix des matériaux, des couleurs, de partir sur quelque chose de simple, d'aller sortir, même si on ne veut pas sortir, tu sais, dans un Cultura ou une mercerie, et d'aller acheter un petit bout de tissu, un tambour et 3-4 couleurs de fil qui nous fait plaisir. Tu sais, quelque chose comme ça, de se raccrocher à un objet.
Ça nous attire. Oui, moi, je dis toujours, le matériel est super important. Il faut vraiment que le toucher te fasse plaisir. Et que la couleur, tu dis « Waouh, mais c'est trop beau !» Il faut qu'il y ait ça.
Et d'aller donc se faire un cadeau, de se dire, donc pas dans un action, hein, tu vois, pas dans un... Vraiment, s'acheter un beau truc, même y mettre 30 euros, mais se faire... 30 euros, c'est pas dingue non plus, hein, mais un joli tambour en bois, etc. Et puis une toile pré-imprimée, parce que comme ça, ça nous enlève toutes les étapes de transfert ou de choses comme ça, de se poser, même dans son lit, hein. Si vraiment c'est le lieu refuge et de commencer en se disant qu'on peut poser. Tu vois, le tricot, le problème, c'est que tu peux pas poser n'importe quand. Il faut quand même que tu finisses ton rang. Mais la broderie, tu peux la poser là. Tu vois ? Le crochet aussi, tu peux pas le poser forcément parce que si tu es dans un moment de calcul ou de truc, la broderie, si c'est trop dur pour toi à ce moment-là, tu la poses à côté. Au moins, tu la vois, tu vas peut-être avoir envie encore de continuer. Broder, c'est comme dessiner. Tu poses ton crayon, tu vois, là, tu poses ton aiguille et ça t'as pas besoin de retenir où t'en étais. Donc, vraiment, de prendre son temps.
De se faire plaisir. Je pense que c'est vraiment un bon conseil, ça. Comme tu as dit, de se faire un cadeau, se faire plaisir. Donc, on va avoir de la sérotonine, de la dopamine, on aura envie. On aura déjà nourri un petit peu l'envie. Et ensuite, c'est vrai qu'avec la broderie, tu peux faire deux points et hop, je le pose. Je reviens 2 heures après, je fais 2 points et hop, je le pose.
Doucement revenir. Et puis des personnes qui vont dire, je l'ai fini en 1 heure parce que ça m'a absorbé, tu vois.
Vraiment, merci beaucoup pour tous tes partages, ta sincérité, t'as été sans filtre, donc c'est cool.
Bon, merci beaucoup Sarah pour ce moment vraiment très plaisant. J'ai adoré échanger avec toi de m'avoir invitée à partager.
En tout cas, merci pour tous tes conseils, tous tes partages. J'espère que ça va aider les filles à se lancer dans une activité créative, qu'elle soit couture, tricot, dessin, poterie, qu'importe. Trouvez votre kiff en fait, trouvez le truc qui vous fait du bien. Pour aller sécréter un peu plus de sérotonine et pouvoir nourrir cette batterie de motivation. Et comme ça, on peut à côté déconstruire tout ce dont on a parlé au début, revoir l'alimentation, revoir... Parce qu'en fait, c'est ça, hein, pour faire des choses un peu moins agréables, il faut aussi faire des choses très agréables. Comme ça, on nourrit cette batterie d'efforts, de motivation qui va te permettre par la suite de faire des trucs moins sympas, quoi, mais qui sont tout aussi nécessaires et indispensables pour remonter la pente suite à un burn-out. Voilà pourquoi j'aime beaucoup les interviews vraiment basées sur de l'impro, en fait. Rien n'est prévu à l'avance, je n'ai pas de trame particulière, hein. je te partage ça, je ne suis pas sûre que ça t'intéresse, mais il faut savoir que voilà, certaines personnes vont prévoir des questions bien précises, et puis tu suis une feuille de route, et puis d'autres, elles sont plutôt en mode « vas-y, parle, et on verra où est-ce que ça va nous emmener », et je trouve qu'il y a plus de pépites comme ça, c'est-à-dire que je ne connaissais pas le parcours de Caroline, je ne savais pas qu'elle avait arrêté de fumer grâce au tricot. Alors ça ne me choque pas du tout, parce que je sais pertinemment qu'il est plus que possible d'arrêter les addictions avec le tricot, parce que justement il vient remplacer cette gestuelle, il vient occuper les mains, il vient occuper le cerveau. Ça peut aussi être très utile pour tout ce qui est troubles alimentaires. Et puis aujourd'hui, on sait très bien que la créativité a un grand intérêt pour tout ce qui est dépression et burn-out, parce que voilà, ça permet de booster l'estime de soi, ça permet de se consacrer du temps, ça permet de rentrer en onde relaxante, donc ça permet de se détendre, et petit à petit on vient changer cette perception de soi pour qu'elle soit plus valorisante, plus valorisée, et ça nous donnera du coup les forces d'attaquer d'autres changements dans notre quotidien pour remonter la pente suite à un burn-out, ou même pour éviter le burn-out. En tout cas, j'espère que l'épisode, il t'a convaincu et que tu es un peu motivé à te lancer dans une activité créative. Le plus important, c'est d'y aller tout en douceur, étape par étape, avoir des objectifs plutôt faibles au début, et puis voilà, augmenter ses ambitions au fur et à mesure. Dans le descriptif, je te mets son site internet, tu pourras trouver les kits de broderie, je te mettrai aussi son compte Instagram, voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir la contacter. Si tu as des questions, si tu veux continuer à échanger, si tu veux approfondir, bah, je te donne rendez-vous sur Instagram. D'ici là, tu peux soutenir le Café des Burnies en me laissant un avis, je le lirai aux prochains épisodes. Tu peux me mettre 5 étoiles aussi sur la plateforme d'Apple Podcast, ça permet de le rendre plus accessible. Et puis tu peux tout simplement partager le post que je publierai sur Instagram. Je te dis merci plus pour ton écoute, boost en feeling good, et à la semaine prochaine.